explorer de nouveaux mondes étranges.
La Terre est là. La Terre est proche.
Descendez la voie !
Le temps d'un bivouac !
Cet été, tous les mercredis, nous repartirons sur les pas d'un grand voyageur d'hier qui a marqué son époque. Et pour commencer, nous allons nous intéresser au parcours d'un homme qui est devenu l'une des figures de référence du journalisme. Un style vif et incisif, le sens du récit, une indépendance d'esprit, un goût pour la vérité. Au fil de ses reportages, Albert Londres, c'est de lui dont il s'agit, a imprimé sa marque dans la presse française et dans l'histoire de sa profession. Pendant plus de 20 ans, il a été envoyé spécial sur tous les continents, s'intéressant au sort des travailleurs africains au Congo, des prostituées de Buenos Aires, des juifs de Palestine ou des pêcheurs de perles du golfe Persique. L'humain était au cœur de ses reportages. Une sélection de ses articles a été rassemblée dans un recueil intitulé « Albert Londres, grand reportage à l'étranger » aux éditions Artaud. Un ouvrage préfacé par Étienne de Montetti, écrivain, journaliste, directeur du Figaro littéraire et fin connaisseur de la vie et de l'œuvre d'Albert Londres. Cet après-midi, Étienne de Montetti nous emmène dans les pas de celui qu'il nomme le patron. Cette émission a été préparée par Hugo Struna, elle est réalisée par Anne-Sophie Ladonne et Étienne Bertin, avec à la technique Rémi Sistiaga. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Voyager, c'était comme d'autres fument l'opium ou prisent la coco. C'était son vice à lui. Il était l'intoxiqué des sleepings et des paquebots. Et après des années de courses inutiles à travers le monde, il pouvait affirmer que ni le regard d'une femme intelligente, et malgré cela proprement faite, ni l'attrait d'un coffre-fort n'avait pour lui le charme diabolique d'un simple et rectangulaire petit billet de chemin de fer.
Ces mots ont été écrits par Albert Londres. Ils sont à la troisième personne, mais c'est de lui qu'il parle ainsi dans le prologue de son recueil d'articles « Chine en folie ». Étienne de Montetti, ce drogué du voyage qui voyage comme on fume l'opium, c'était Albert Londres.
C'était Albert Londres. Qui avait été veuf très tôt. Il a laissé une petite fille qui a dû être élevée par ses parents. Et il s'est senti sans attache. Et il est parti. Et il a effectivement eu cette espèce de virus qu'on connaît encore aujourd'hui dans les rédactions de journalistes qui sont comme des pingouins à Paris qui savent à peine se diriger dans le métro parce que eux, leur terrain naturel, ben ça va être le grand reportage au fin fond du monde et dans des villes en guerre par exemple.
Alors, il aimait voyager, mais il a aussi marqué le journalisme. Aujourd'hui, on a surtout d'ailleurs son nom en tête avec ce prix Albert Londres, créé par sa fille 2 ans après sa mort, en 1934. C'est devenu, alors si je dis le prix Nobel des journalistes, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'est la consécration ultime.
Le prix Goncourt des journalistes, voilà. On va dire. Oui, en effet, avec un palmarès absolument admirable, où tous les grands noms du journalisme depuis les années 30 existent, c'est la consécration, effectivement, d'une carrière au service de quelque chose qui était vraiment la vocation d'Albert Londres, c'était de montrer ce que le lecteur, à l'époque, ne pouvait pas voir.
Ouais. Qu'est-ce qu'incarne Albert Londres aujourd'hui alors, j'allais dire pour la profession des journalistes, plus que pour le grand public, au sein d'une rédaction comme celle à laquelle vous appartenez, on l'évoque, Albert Londres, ça reste une référence, qu'est-ce qu'il incarne ?
Oui, c'est une référence, parfois un peu facile, mais qui fait appel à deux qualités essentielles, hier comme aujourd'hui, c'est la curiosité, c'est-à-dire aller partout et notamment là où les autres ne vont pas. Et puis deuxièmement, c'est cette fameuse plume dans la plaie, on en parlera peut-être plus tard, c'est cette idée qu'une fois qu'on est quelque part, on a aussi parfois un jugement à donner sur le régime, des situations qu'on voit, et donc cet art de dénoncer ou du moins de pointer du doigt des situations anormales, et donc curiosité et aussi nécessité de juger. Et ça, c'est les deux qualités qu'on demande à un journaliste hier comme aujourd'hui.
Un style aussi, un style incisif, percutant, qui va droit au but, qui tient son lecteur.
Oui, mais alors les choses évoluent quand même. Parce qu'à l'époque d'Albert Londres, il s'adresse à des lecteurs français qui n'ont aucune idée des pays dans lesquels il se rend. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas Internet, les magazines avec des photos n'existent pas. Il est donc obligé d'énormément décrire, donner des détails et de mettre en scène des situations pour que le lecteur, qui habite Pithiviers ou Ramatuelle ou que sais-je, réalise ça. Et donc, il y a cet extraordinaire style littéraire de mise en scène qui permet à Albert Londres de faire des reportages extrêmement vivants. Aujourd'hui, Il est vrai qu'un grand reporter n'écrira pas de la même manière parce qu'il s'adresse à des gens qui ont vu des images, des pays et des situations qu'il décrit.
Alors ça lui est venu assez tard, finalement, ce métier de grand reporter. Né en 1884 à Vichy, il commence sa carrière comme comptable à Lyon. On est loin de l'aventure et de l'exotisme avec cette carrière de comptable.
Oui, d'autant qu'il veut simplement être écrivain. Et à l'époque, devenir écrivain, c'est pas être romancier comme aujourd'hui, c'est être poète. Mmh. Et il commence, comme François Mauriac par exemple, à écrire des vers. Alors je peux pas juger de la qualité de ses vers, c'est des vers d'adolescents, des vers de jeunes gens. Et il publie quelques recueils de vers. Il monte à Paris, comme tous les jeunes gens qui ont envie d'exister. Et là, il va retrouver un de ses compatriotes de la région du centre. Il est originaire de Vichy, qui s'appelle Bois, et qui joue un rôle important dans la presse populaire de l'époque. Et c'est lui qui va mettre le pied à l'étrier. Ouais.
Mais ça veut dire qu'il aurait voulu être poète, écrivain. Le journalisme, c'est un peu par défaut, par dépit
Probablement. D'autant qu'il rentre dans la presse pour se nourrir, tout simplement. Il est envoyé à la Chambre.
Oui.
À la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, il commence par faire des petits articles non signés. Mmh. Il est vraiment un petit journaliste parmi d'autres. Il faut lire Balzac, il faut lire Maupassant avec Bellamy, cette atmosphère des salles de rédaction dans lequel le dernier venu fait des brèves, des petits articles.
Il y entre par la petite porte. Hein. Alors c'est un anonyme parmi les journalistes. Il va quand même interviewer Jean Jaurès.
Alors il a de la chance. Et ça, la chance, on sait que dans un métier, dans une carrière, c'est quelque chose d'important. Effectivement, il va interroger un très brillant parlementaire qui s'appelle Jean Jaurès. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que dans les heures qui vont suivre, Jean Jaurès sera assassiné rue du Croissant.
Bon, alors ça, c'est une chance, peut-être pour lui, mais pour Jean Jaurès, ça, c'est
oui,
pas,
mais
c'est
on
pas
se
la
dit,
chance,
mais ce Londres, il est incroyable. Il est quand même un peu là où il faut être. Et de même, un petit peu plus tard, ça sera vraiment le début de sa carrière, il est réformé. Et il est correspondant de son journal au ministère de la guerre, alors que la guerre de 14 vient d'éclater. Mmh. Et il entend dire que Reims, la ville de Reims, est sous le feu des canons allemands, et que la cathédrale de Reims, notamment, est menacée par les canons allemands. Et là, il va filer à Reims, et il va donner naissance à son premier reportage signé, qui va impressionner tous ses confrères. Ouais. Premier reportage signé par Albert Londres. Ils ont bombardé Reims, je cite de mémoire, ils ont bombardé Reims. Nous avons vu cela.
Ouais. La phrase est restée. Hein. Et ils ont bombardé Reims, première phrase de l'article. Nous avons vu cela. C'est devenu une phrase emblématique.
Bah, c'est une accroche, comme on dit, extraordinaire. Et puis surtout, il va décrire cette affaire-là, le bombardement de la cathédrale, comme une sorte d'épopée inouïe. Oui. Et ça frappera instantanément les esprits.
Parce que, alors vous me disiez, de mémoire, j'ai la première phrase, on vous propose d'écouter peut-être l'article sur un peu plus de longueur. Qu'est-ce qui vient après cette phrase ?
Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela. Nous venions d'Épernay, Reims nous a paru à 15 kilomètres. La cathédrale profilait la majesté de ses lignes et chantait dans le fond de la plaine son poème de pierre. Nous ne la quittâmes plus des yeux. Nous avancions. Notre ami nous frappa brusquement du coude. « Regardez, dit-il, ça fume !» Nous étions cinq hommes qui ne parlaient plus. Le sort de l'œuvre qui, depuis 8 siècles, émerveille le monde, nous tenaillait l'esprit. Un sous-officier nous croisa. « C'est la sous-préfecture qui flambe, cria-t-il. Nous filons vers la ville. Les flammes s'allongeaient. » À 3 kilomètres de l'entrée, il nous faut ralentir. C'est l'exode. Tête nue, les femmes partent vers les champs. Elles sauvent leur fils de la mort. Elles sont en groupe, parlent haut, veulent nous dire ce qui se passe, qu'ils tirent sur Saint-Rémy, sur la cathédrale, partout, et qu'on n'y peut plus tenir. C'était le 19 septembre 1914 à 7h25 du matin.
Nous étions donc en septembre 1914. Étienne de Montetti, le style qui fera la réputation d'Albert Londres est déjà là. On l'entend. Hein. C'est l'un de ses premiers grands articles. Il fait mouche.
Il fait mouche. Et puis, il a des trouvailles extraordinaires. Il fait de la cathédrale un être vivant. Il en parle comme d'une femme malmenée, d'une femme violée, d'une femme bafouée. Et ça donne une extraordinaire vie à ses articles. On y est. Et puis, il a ce sens de la dramaturgie. Alors, évidemment, ce qu'il décrit est tragique, mais il a un sens du récit qui est extraordinaire et qui est inné parce qu'il est un débutant dans la partie.
À partir de là, il va prendre son envol. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter du terrain hexagonal de la France. Il va voyager, parcourir le monde en tous sens avec ce goût, on le disait, irrépressible du voyage. Et dans ses reportages aussi, il se met en scène. Très vite, il va abandonner le « nous » pour passer au « je ». C'est vraiment Albert Londres en reportage.
Oui, et il a l'art, par une sorte d'autodérision, de se représenter comme un personnage, une sorte de Ludion, personnage qui irait partout, qui interrogerait partout, quitte à être un petit peu ridicule d'ailleurs. Mmh. On a l'impression qu'il fait irruption dans les scènes qu'il décrit. Et alors évidemment, ça donne un attrait et même souvent une drôlerie extraordinaire à ses récits.
Et parfois, il utilise son double, Jean-Pierre d'Aigues-Mortes, pour parler de lui-même.
Jean-Pierre d'Aigues-Mortes n'avait pas de profession, il était envoyé spécial de journaux. Depuis des années, il arpentait la Terre d'un point cardinal à un autre. Aussi pouvait-il jurer que la géographie se trompe en avouant que quatre points cardinaux. Certainement, il y en a davantage. Jean-Pierre était devenu ce qu'il était sans préméditation. Un jour, on l'avait fait appeler dans un bureau. Là, un monsieur portant généralement le titre de rédacteur en chef et la rosette d'officier de la Légion d'honneur, et qui avait obtenu de l'administration quelques maigres crédits pour donner un peu plus de vie au journal, lui avait dit « Bonjour, avez-vous une valise ? Oui ? Allez donc voir à Constantinople ce qui se passe. » Il partit. Il tourna 3 mois dans les Balkans, puis il revint. Le rédacteur en chef, qui avait été félicité pour l'idée, regarda le voyageur avec des yeux étonnés et lui dit « Que faites-vous là ? Faut repartir ?» Ils repartent.
Amusant ce double narratif qu'il crée, hein, Jean-Pierre d'Aigues-Mortes, pour parler de lui-même et mieux se mettre en scène, Étienne de Montetti.
Oui, c'est peut-être lié à un usage qui traîne dans la presse, qui est la difficulté à dire « je ». Au départ, effectivement, il y a parfois le nous, un peu de majesté. Lui avait carrément imaginé un il. Très très vite, il va s'installer lui-même en étant jeu. Et puis ça va être une immense vedette, Albert Londres. Donc les gens attendent que ce soit Albert Londres en personne qui parle.
Là, c'était pour un extrait de La Chine en folie, qui est un recueil de ses articles qu'il a fait en Chine. Il va vraiment partir dans de très nombreux pays, avec quand même on va dire une sorte de fil conducteur, c'est l'humain, les opprimés, les injustices, c'est vraiment au cœur de chacun de ces reportages. S'il doit y avoir un fil conducteur, c'est celui-ci.
Oui, ça va venir peu à peu. Au début, il avait envie, il le dit dans ses premiers reportages, d'être celui qui voit et qui donne à voir simplement. Et en réalité, il se rend compte que c'est rarement aussi facile que ça. Quand il part en Russie, donc la jeune URSS, comme on commence à l'appeler, hein, c'est-à-dire après la révolution bolchévique,
en 1920,
il va montrer un pays, et puis il est assez, quand même forcé très très vite de montrer les anomalies, les désastres du nouveau régime bolchévique. Ouais. Et donc très vite, il devient par ses reportages quelqu'un qui porte un jugement sur cette révolution beaucoup moins réjouissante que ce qu'on peut dire à l'époque.
Oui, il va avoir des mots très forts pour ce régime. Hein. C'est le dernier degré de la dégradation. Ce sont des étables pour Rome. C'est la troisième internationale. À la quatrième, on marchera à quatre pattes. À la cinquième, on aboiera. Le style n'est pas neutre.
Non. Et puis, il a cet art des images, évidemment. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour comprendre qu'il a vu des choses épouvantables.
D'autres indignations, d'autres dénonciations suivront. Sa phrase, hein, « Porter la plume dans la plaie », il n'aura de cesse de le faire. Porter la plume dans la plaie, il va le faire pendant plus de 20 ans. Nous allons le découvrir à travers ses reportages les plus marquants. Le journaliste et écrivain Étienne de Montetti nous emmène dans les pas d'Albert Londres, le temps d'un bivouac sur France Inter. Kera buti katarluj, mera buti parashtu. Kera buti zame kurkone, adu karadu maj savakone, oj, oj, oj. Kera buti sargras pačtive, te kera te bije. Kjerke me vlabu shukar, numa jetu eva kjar. Savatonner, c'était Goran Bregovic sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je ne suis qu'un journaliste venu faire une enquête.
Ce qui se passe ici ne va intéresser personne, monsieur.
Nous verrons.
Alors, combien d'articles ?
Je ne sais pas, mais j'ai un angle. En fait, j'aimerais surtout m'intéresser aux conditions de vie des bagnards.
Les hommes qu'on nous confie sont dangereux et nous les tenons uniquement par la peur des sanctions.
La punition est une chose, la dégradation de l'être humain en est une autre.
Je ne vois pas pourquoi ajouter l'humiliation au châtiment.
Qu'est-ce que vous insinuez ?
Messieurs, je vous prie, mettons les choses au point. Monsieur Londres a l'autorisation du ministère. Il se rendra où il voudra, quand il voudra. Sentier, vous lui servirez de guide.
Antoine de Caunes interprétant Albert Londres dans le téléfilm Les Amants du Bagne. Étienne de Montetti, Albert Londres, est au journal Le Petit Parisien quand il part pour Cayenne, en Guyane. Il en rapportera 27 articles sur les conditions de ces fameux bagnes. Que dénonce-t-il dans ces articles ?
Il dénonce la condition des bagnards. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au bout du monde, au fond, il va dans une réalité que les Français ignorent, c'est que dans un territoire français, qui est la Guyane, des hommes qui sont coupables peut-être de crimes sont traités de manière tout à fait inhumaine. Et donc il va, par son reportage, signaler que c'est pas parce qu'on est au bagne qu'il faut l'être dans des conditions inhumaines. Et puis, selon des règles de justice qui sont également, à ses yeux, scandaleuses, notamment ce qu'on appelait le doublage, c'est-à-dire qu'un bagnard même libre devait rester là-bas, je crois à peu près le temps qu'il avait fait au bagne, une sorte de doublement de la peine, pour éloigner le plus possible le condamné de la métropole. Et il va donc là-bas, évidemment, ramener des reportages assez sidérants sur la condition dans ces pays où le climat est très très dur. Il montre que, bagne ou pas, il y a une dégradation de l'être humain qui est épouvantable. Et puis, il va même dénicher là-bas une erreur judiciaire, puisqu'il va faire des portraits de bagnards, qui sont évidemment des personnages toujours très hauts en couleur, notamment l'un d'eux qui s'appelait Dieudonné, et il va prendre fait et cause pour Dieudonné, dont il est convaincu qu'il a été condamné à tort.
Eugène Dieudonné,
qui était un ancien de la bande à Bonneau, qui va, alors que je crois qu'il est en fuite, va l'approcher, et il va faire de Dieudonné sa grande cause et obtenir, en sollicitant les pouvoirs publics, les autorités politiques, il va obtenir la réhabilitation de Dieudonné.
Il y a déjà un certain pouvoir là du journaliste
qui ne
se contente pas de témoigner, il agit.
Exactement.
Il agit et puis alors il va aussi écrire une chanson à Cayenne, interprétée ici par Lucienne Boyer.
La Loire a quitté la palisse. Maintenant tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police.
Éclectisme du personnage. Il voulait être poète, vous nous l'avez dit, Étienne de Montetti, dans sa jeunesse. Le voilà parolier. C'est une expérience qu'il n'a pas multipliée. On ne connaît pas énormément de chansons. Alors, il y a cet exemple, je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Si il y a celle-ci, non. Il est quand même cité dans une chanson en 1934, donc 2 ans après sa mort. Il y a une chanson, probablement un peu anarchiste, qui s'appelle Le Merle Rouge, et qui dit « Biribi est tombé sous les coups d'Albert Londres ». Donc il est devenu dans ce milieu des mauvais garçons. Une référence comme celui qui a fait changer les choses au bagne.
Il va s'intéresser à d'autres établissements pénitentiaires quelques années plus tard, en 1924. Ce sera en Algérie, cette fois, qu'il va s'intéresser à ces établissements pénitentiaires.
Il s'intéresse aux établissements pénitentiaires, il va s'intéresser aux fous. Il va dans ces lieux qui ne sont pas forcément au bout du monde, mais dans lesquels il y a des réalités inconnues des lecteurs. Il y a également le Tour de France, par exemple, qui est cet événement populaire qu'on connaît. Et il va, de l'intérieur, montrer qu'il y a une réalité différente, Tour de France, Tour de souffrance. Et c'est donc l'humain dans ces situations qui l'intéresse et où il va montrer des choses que personne n'a envie ou n'a l'idée de voir.
Le Tour de France, ça vient un peu après avoir fait beaucoup de reportages sur des terrains de guerre. Il y a cette envie aussi de rester un peu sur le sol français, plus paisible.
Oui, ou l'idée de se dire que parfois, des sujets tout à fait intéressants ne sont pas à l'autre bout de la planète, mais sont dans notre société et simplement, on les regarde avec des yeux habitués et qu'il ne faut pas justement s'habituer parce qu'il y a des réalités cachées et que derrière cette belle épopée sportive, on n'est pas là pour parler du Tour de France, ouais, mais il y a des coulisses qui sont sidérantes et il va en parler comme personne. Et
en l'occurrence, les coulisses sidérantes, c'est pas le dopage dont il parle à cette époque.
Mais c'est quand même les difficultés physiques auxquelles sont confrontés les coureurs, qui fait que c'est au-delà de l'exploit sportif, il y a quelque chose qui va peut-être au-delà des limites de l'homme.
Il fait témoigner des coureurs et qui leur fait dire ce que nous ne ferions pas faire à des mulets, nous le faisions. Un jour viendra où ils, sous-entendu la direction de la course, nous mettront du plomb dans les poches parce qu'ils prétendront que Dieu a fait l'homme trop léger. Il en fait des martyrs, des forçats du vélo.
Oui, mais il donne la parole au coureur lui-même pour casser un peu la légende célébrée par les journalistes, les écrivains qu'on sait sur la grande boucle, la petite reine, etc. Il ne faut pas s'arrêter à ça, mais c'est intéressant de voir qu'il parvient à dénicher des sujets qu'il est le seul à trouver.
Il s'intéressera aussi à l'Asie, à la Chine en particulier. Que va-t-il raconter sur la Chine ?
Ben il va faire découvrir un continent en pleine révolution, évolution. Je dirais qu'il parle de la Chine qui deviendra celle de la révolution communiste. Il n'en parle pas forcément. Encore que son dernier reportage était sur la Chine et qu'il y était question des infiltrations bolcheviques. Surtout cet immense continent un peu mythique, la Chine pour un Français des années 30, c'est quelque chose de très très lointain. Et on n'imagine pas qu'un journaliste français puisse aller explorer ce continent, sa réalité économique, sa réalité sociale, sa réalité politique aussi. Qu'est-ce qui s'y passe ?
Chine. Chaos, éclat de rire devant le droit de l'homme, mise à sac, rançon, viol. Immobile, l'argent. Un but, l'or. Une adoration, la richesse. Du bandit de deuxième classe au plus authentique tyran, une unique idée, dirigée vers sa demeure des brouettes de sous de bronze ou des wagons craquant sous l'or. Le peuple est une punaise que les hommes en armes écrasent dès qu'il ose sortir des plaintes. 21 provinces, 21 tyrans. L'un vend sa part de Chine au Japon, l'autre aux Américains. Tout est mis à l'encan. Fleuves, chemins de fer, mines, temples, palais, bateaux. Pour chacun, le pays est un butin. Il ne s'agit que de faire main basse dessus, alors on ouvre les enchères.
Toujours Étienne de Montetti, ce style d'Albert Londres, direct, percutant, il y va, comme on dit pas, avec le dos de la cuillère.
Oui, avec des images très simples, ce qui lui permet de porter des jugements, mais avec des descriptions très simples, très colorées, et ça parle tout de suite. C'est très efficace.
Ouais. Il sait que son lecteur a d'autres préoccupations, n'a pas forcément dans ses préoccupations du quotidien les problèmes de la Chine ou la façon dont s'organise la vie là-bas. Il faut l'intéresser, il construit ça avec une ponctuation, grand renfort de petits points, de points d'exclamation. Il veut accrocher son lecteur.
Oui, c'est la grande tradition de la presse. On retrouve des choses, on se croirait presque chez Alexandre Dumas. Il va formuler des dialogues qui sont évidemment imaginaires et qui sont très drôles, qui sont des véritables scènes de théâtre avec des quiproquos, des interjections, des malentendus. Évidemment, ça n'a certainement pas eu lieu comme ça, mais ça donne une vivacité à son reportage extraordinaire. Il y est et ses interlocuteurs, les gens autour de lui y sont. Le lecteur se laisse faire avec bonheur.
Il construit ça comme des petites nouvelles, avec une chute, un développement, une accroche.
Oui. Des coups de théâtre, des personnages qui sont décrits de manière toujours très pittoresque.
Un peu cabot parfois, sa façon de présenter les choses.
Oui, mais avec beaucoup d'autodérision. Il est au milieu, il faut l'accepter. Si on ne veut pas voir d'Albert Londres, il ne faut pas lire du Albert Londres. Ouais. Mais il a de l'autodérision. C'est ce personnage qui est sur la scène et qui occupe le terrain. Et jamais on oublie que c'est Albert Londres qui nous guide, qui nous prend par la main. Il est notre ambassadeur.
Ouais. Son style lui sera reproché par certains.
Je ne pense pas, je n'ai pas de souvenirs.
Alors, j'ai lu que ses chefs du matin lui reprochent d'avoir introduit le microbe de la littérature dans ses écrits, dans ses pages.
Oui, parce qu'il fait de la littérature, il reconstitue les choses, évidemment. Et les dialogues, les scènes, elles ne sont probablement pas passées comme ça, mais c'est tellement plus beau quand c'est raconté par Albert Londres qu'on l'accepte.
Cela dit en passant, il ne fallait pas trop le critiquer non plus, parce que c'est un indépendant, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, et quand un rédacteur en chef critiquait son style, il a plus d'une fois claqué la porte, changé de journal.
Oui, et quand Clémenceau n'est pas content parce que ses reportages en Italie en 1919 critiquent le traité de Versailles. Donc Clémenceau était un des protagonistes. Clémenceau demande sa tête à la direction et Londres claque la porte. Il faut reconnaître qu'à l'époque, il y a énormément de journaux. Et donc quand on s'en va d'un journal, oui, on va dans la rue d'à côté. Et puis la notoriété venant, les journaux se sont beaucoup arrachés à Albert Londres.
Oui, c'est ça. Quand on s'appelle Albert Londres, surtout au retour de la Chine, ça y est, hein, il est lancé, sa carrière, tout le monde le lit. C'est un nom de la presse. Il n'a pas trop de mal à se recaser. Hein. Il s'est aussi intéressé au sort de femmes d'Europe, de France, de Pologne, qu'on faisait aller jusqu'en Argentine, où il y avait eu beaucoup d'émigration pour la prostitution.
Oui, c'est un reportage assez singulier, parce qu'évidemment, à l'époque, les questions posées par la condition de la femme, la prostitution, tout ça, c'est pas des questions tellement à la mode. C'est un reportage qui a une tonalité assez curieuse, on se croirait dans une série noire, il y a tout l'argot de Paris, des personnages qu'on imagine tirés de chez Albert Simonin et Michel Audiard, mais qui posent quand même des questions sur la prostitution et de savoir si c'est simplement des questions morales qui se posent ou pas, et puis on sait que c'est des questions immenses et il suffit pas de fermer une maison close pour régler ce problème, mais il pose les bonnes questions quand même.
Avec une certaine naïveté, hein, notamment sur les proxénètes.
Oui, il est un peu... Mais là encore, il y a des anachronismes qu'il ne faudrait pas qu'on fasse, mais il est un peu avec eux dans une sorte de complicité, d'indulgence, et puis il est un peu bluffé par leur genre, le côté voyou de ces types, le côté titi parisien, le séduit. Et c'est vrai que c'est des reportages sur lesquels quelquefois on se dit, là il est un peu moins exigeant avec lui-même et avec la situation qu'à d'autres moments.
Vous avez hésité parce que je rappelle donc que vous avez publié chez Artaud ce recueil d'articles Albert Londres, grand reportage à l'étranger. Vous en écrivez la préface. Il y a ces articles sur la prostitution. Vous avez hésité à les sélectionner, cela justement pour ces raisons.
Un petit peu parce que voilà, je trouvais qu'on était un petit peu trop dans la littérature de série noire et que les problèmes réels posés par la prostitution n'étaient pas complètement abordés, mais il ne faut pas être trop sévère avec Albert Londres. C'est les années 30 et notre perception du sujet a évolué et c'est ainsi.
Nous allons découvrir d'autres de ces grands reportages dans un instant. Vous écoutez Le Temps d'un bivouac dans les pas d'Albert Londres avec Étienne de Montetti.
Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
Alléluia, pas d'auréole mais couronne sur ma tête. Je m'en suis sorti parce que j'ai un débrouillard. Je crois en Dieu et je crois en moi-même. Depuis le début, rien qui nous méprise. Négro, bien sûr que je préfère les miens. Je te déteste comme tous les gens qui me disent. J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien. On a fait le ménage et le sale boulot. Jamais écrit, on n'a jamais ragé. Parfois, faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je cruche. J'ai toujours refusé de juger les autres parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je crône. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le Terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai crisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. Révolution sera pas télévisée, elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace, mets la terre à tes pieds. En combi d'astronaute à l'arrêt de bus, je confonds la NASA à la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop, fils d'immigré aura toujours la dalle. En amour c'est dur de rester au top, dur comme t'as fait les abdos à la salle. Je suis le daron de la matrice, fume cigare sans cannabis, ouh. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, ra, presque en solo, j'ai même pas trop s'équipe. Me parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre. L'amour, les océans de larmes. J'suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà. Prims. Loin du soleil, loin du soleil.
d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
C'était Astronaute de Youssoupha sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je le connus, son repère de poète globe-trotteur était rue de Douai, près du Baltabar. Deux pièces, un lit, une table, un fauteuil, des piles de livres partout, des cartons éventrés laissant passer des liasses de lettres, de dépêches, de notes, des malles ouvertes et, insistante, une valise toujours prête dont la seule vue semblait l'exciter, l'enfiévrer. Partir, toujours partir. Tu devrais t'installer, suppliait quelquefois sa mère qui élevait sa fillette. Jamais, jamais, répliquait-il, soudain crispé. La solitude, la simplicité de ma vie sont ma principale force. Des meubles ? Suis-je antiquaire, rentier, propriétaire ? Les meubles, ça vous retient dans les maisons, c'est très malsain.
Ainsi parlaient les amis d'Albert Londres de lui-même. Alors, on l'entend, Étienne de Montetti, il ne tenait pas en place. Hein, même sa propre fille, finalement, c'est sa mère hein, qui l'élève. Lui, il est tout le temps, c'est un courant d'air, il est tout le temps parti, tout le temps par Mons et par Vaux.
Il a le virus des voyages.
Il y avait cette idée aussi de la seule possession qu'on lui connaît, c'est cette petite valise en pot de porc qui l'accompagne tout le temps. C'est devenu un peu son symbole.
Son fétiche, effectivement. Et puis, effectivement, les choses qu'il disait étaient assez amusantes, quoi. Les meubles qui vous retiennent à la maison. Mmh. Et lui a toujours tourné le dos au sédentarisme.
Alors, après la traite des Blanches, dont on parlait à l'instant en Argentine, il s'intéressera à celle des Noirs en Afrique. Et là aussi, il va dénoncer, et ça va faire beaucoup de remous.
Oui, et ça c'est très intéressant parce qu'il part en Afrique, là encore, pour montrer des choses, et ses premiers reportages sont neutres, voire naïfs. Il y a des considérations sur les Noirs, sur la découverte par un journaliste français, européen, blanc, de ce peuple noir, avec beaucoup de clichés, il faut le dire. Ce sont les clichés de l'époque, qui sont sympathiques, mais évidemment très limités. Et puis, peu à peu, s'intéressant avec cette empathie qu'il a vraiment pour les gens et qu'il montre dans ses reportages, il discute, il interpelle, il sympathise avec les uns et les autres et il va tomber sur quoi? Par exemple, sur les chantiers pour la construction du chemin de fer. Et de même qu'au bagne, il avait découvert la condition des hommes, quels que soient ces hommes. Là, il va découvrir la condition des Noirs sur les chantiers de chemin de fer. Et là, ce regard naïf qu'il a sur les Noirs va se transformer, alors là, véritablement, en indignation. Mmh. Et il va prendre à partie la France en disant « Vous êtes en Afrique, vous avez une tutelle, et c'est une tutelle morale de la part de la patrie des droits de l'homme. » Et il va véritablement faire des conditions de travail des Noirs sur ces grands chantiers. Et il va en faire un combat pour que la classe politique, les élites françaises, prennent conscience de ce scandale.
Le Mayombe, au total, était et demeure une bien grande garce de forêt tropicale. Demain, 502 km de voies ferrées relieront Brazzaville, capitale de l'AEF, à Pointe-Noire, son débouché. Mais pour l'heure, Pointe-Noire n'est qu'un phare, un hôpital et une douane. Et dans le Mayombe, les ouvriers du chemin de fer maigrissent, se dessèchent, perdent la raison et s'affaissent.
Extrait de l'un de ses articles rédigés sur le Congo en 1929. Ça va faire scandale. Hein. Ces écrits, ça va pas passer inaperçu en haut lieu, en France. Ça va être très mal pris.
Oui, mais ça interpelle. Et puis sa notoriété fait que ce sont des articles lus par des centaines de milliers de lecteurs. C'est donc l'opinion publique qu'il prend à partie et qui oblige la classe politique peut-être pas à agir, mais au moins à réagir à ces reportages.
Et c'est justement suite à ces reportages et aux attaques dont il va être l'objet qu'il va se défendre et écrire cette fameuse phrase dont je citais de mémoire la fin tout à l'heure, mais voilà ce qu'il dit exactement. « Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. »
C'est une magnifique formule, vraiment, c'est une trouvaille géniale de journaliste, puis c'est une belle devise que de se dire qu'on n'écrit pas pour rien, mais effectivement pour dire quelque chose, voire dénoncer quelque chose.
Il a un goût pour les marges, les exclus, les malmenés hein, de son époque. Il va s'intéresser, s'émouvoir aussi pour le sort des Juifs en Palestine.
Oui, il va découvrir ces communautés, d'abord en Europe, dans les ghettos, dans ces années 30, dont on sait que l'antisémitisme commence à faire des ravages. Il s'intéresse à ces communautés qui sont au cœur des villes européennes, mais qui sont en marge de ces villes européennes. Et puis, peu à peu, s'intéresser à cette culture, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais en même temps qu'il y a du reportage vivant, il y a énormément de documentation. Par exemple, il y a, dans un de ses articles, il y a toute une réflexion sur la naissance du sionisme, sur Hetzel. Et on voit qu'il a beaucoup travaillé et lu des livres et qu'il restitue cette culture pour qu'on comprenne la situation des Juifs. Et il va aller jusqu'en Palestine pour réfléchir à cette terre où l'histoire, évidemment, a partie liée avec le judaïsme, mais où à l'époque les Juifs ne sont plus guère présents, la Palestine, qui est une terre arabe. Et il s'interroge déjà. Il y a des prémices de cette réflexion sur est-ce que cette terre peut être un lieu de cohabitation entre les Juifs et les Arabes. Mais évidemment, il faut ne pas oublier que tout ça a été écrit dans les années 30, que la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la naissance d'Israël, tout ça n'a pas eu lieu, donc le contexte a changé. Oui. Mais on voit quand même un homme qui s'intéresse, qui pose des questions. Mmh. Et il y a même une question qu'il pose, c'est de se demander si le déséquilibre démographique entre les Juifs qui sont là-bas et les Arabes n'est d'abord pas un problème dans leur cohabitation.
Et puis après, c'est un peu plus de 20 années à parcourir le monde, à poser des grandes questions qui encore, on s'en rend compte avec ce dernier exemple, qui ont encore des échos dans notre monde aujourd'hui, qui ne sont pas réglés. Il va mourir, mais il va mourir dans des conditions un peu étonnantes. Le naufrage d'un bateau. On va le prendre le temps de s'y intéresser dans un instant. Parce que, en plus, il revient à ce moment-là d'une série de reportages en Chine. On ne sait pas exactement ce qu'il avait découvert, mais il prétend avoir quelque chose d'explosif dont on ne connaîtra jamais exactement la nature et la teneur. Vous allez, dans un instant, Étienne de Montetti, nous raconter la fin de cette histoire.
Remember what might have been, had I walked you home, I said I'd see you later, you were living the dream, but when the morning comes, you're gonna meet your maker, good luck in the afterlife, I hear the morning doesn't cast no shadow. You chose to drift away. Look at you now. Drag you
C'était We're on our way now de Noël Gallagher sur France Inter. Merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Et nous sommes toujours avec Étienne de Montetti qui a préfacé ce très bel ouvrage, grand reportage à l'étranger, Albert Londres. C'est aux éditions Artaud, un recueil de ses plus grands reportages. Ça a été dur de choisir Étienne de Montetti parmi tous ces grands reportages qu'il avait fait. Lui-même les compilait souvent en recueil, mais sur une destination précise. Hein. Il y a la Chine en folie. Enfin, sur chacune de ces destinations, souvent, il faisait des livres.
Après. Oui, il a été un best-seller. Les éditions Albin Michel, une collection dirigée par Henri Béraud, dont on parlait tout à l'heure, un de ses amis, en avait fait un best-seller avec effectivement des articles, pas compilés, mais recueillis. Nous, on a essayé de voir ce qui avait le mieux vieilli, il faut le dire, et puis également ce qui était vraiment du grand reportage, puisqu'on a dit qu'il y avait des choses qui se passaient en France, comme le Tour de France ou sa réflexion sur les fous. On a plutôt été dans l'aventure et dans le grand dépaysement.
Alors, un qui ne figure évidemment pas dans votre recueil et qui ne figure nulle part, c'est celui, le dernier qu'il aurait écrit lorsqu'il revient sur ce paquebot, le Georges Philippard, c'est le nom du bateau sur lequel il se trouve, il revient de Chine. Il a annoncé de façon un peu mystérieuse à son entourage, à ses amis, à ses rédacteurs en chef, qu'il avait des révélations explosives sur ce qu'il avait découvert en Chine. On ne saura jamais quoi, vraiment. On sait à peu près vaguement sur quoi ça portait, ce qu'il a découvert.
Ce sont des hypothèses. Effectivement, c'est son dernier reportage, mais peut-être que sans son accident, ça aurait été son dernier reportage. C'est-à-dire que c'est un Albert Londres vieillissant, un peu usé, un peu fatigué.
Il n'a que 48 ans. Hein.
Mais voilà, mais la vie qu'il a menée l'a quand même lassé. Il est devenu une vedette. Les éditeurs lui proposent beaucoup, beaucoup d'argent pour écrire des mémoires. Enfin, il est en passe de changer de statut, et il y a ce dernier reportage, donc en 1932, il part en Chine mystérieusement faire une enquête aux confins des intérêts économiques, des intérêts politiques, peut-être la mafia, le trafic d'armes. Personne ne sait très bien, parce que ce sont des témoignages au retour, donc sur le Georges Philippard, qui est un paquebot, tout simplement, il rentre en paquebot, comme ça se fait beaucoup à l'époque, et il se confie aux gens qu'il rencontre, et puis survient un accident, effectivement, sur le paquebot, un accident électrique. C'est la nouvelle génération de paquebots qui est électrifiée, et survient un accident. Et Albert Londres, qui est un aventurier, qui a pris des risques inconsidérés pendant toute sa vie, je crois, ne savait pas nager. Cela étant, quand un paquebot est en difficulté, savoir nager ou pas, je pense que c'est un détail. Mais enfin, il est peut-être très craintif d'ailleurs par rapport à la mer, et les rescapés vont raconter que on a vu un homme qui essayait de sortir de sa cabine par un hublot. Il y a une confusion là-dessus. Albert Londres va être porté disparu.
Entre la nuit en fait, du 15 au 16 mai 1932, le paquebot Georges Philippard entre dans le golfe d'Aden et il va sombrer à cause de cet incident, cet incendie qui se déclare à bord. Beaucoup de gens vont en rescaper hein, de cette... il n'y avait pas suffisamment de canots de sauvetage comme souvent sur les paquebots à cette époque, mais quand même 500 passagers vont être sauvés sur les 700. Donc il va y avoir des témoignages après coup qui vont raconter comment ça s'est passé ce naufrage.
Nous avons voyagé sans encombre jusqu'au 16 mai, et dans la nuit, maman a entendu la sirène ou les sonnettes dans la coursive.
Les gens sont sortis voir et ont entendu au feu.
Je me souviens de l'odeur des fumées, mais je voyais bien la foule affolée.
J'ai souvenir d'une errance à travers des coursives, les pieds dans l'eau. Naturellement, on m'a arraché de ma couchette en chemise de nuit, sans rien d'autre. Et les gens étaient pris comme des rats dans une ratière.
Voilà, alors, description un peu apocalyptique de naufrage. Toujours est-il que concernant le cas précis d'Albert Londres, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a même des témoignages, on ne sait pas s'il est mort dans l'incendie, s'il est mort noyé, des témoignages un peu discordants.
Il a disparu, personne ne sait ce qu'il est devenu. Un officier mécanicien a raconté qu'il avait vu un homme qui essayait de sortir de sa cabine donc par un hublot. Il a essayé de l'aider. C'était avec un manche à eau pour le hisser sur le pont supérieur. Est-ce que le manche à eau a cédé ? Toujours est-il qu'il a vu un corps qui tombait à l'eau, et il est possible, probable, que c'était Albert Londres, et qu'Albert Londres donc est mort noyé.
reste avec ce flou et avec cet article mystérieux, mais qui promettait des révélations incroyables, compromettantes. Évidemment, la machine à fantasmes s'est lancée. Et si il avait été victime d'un attentat. En même temps, si vraiment cette hypothèse-là est la bonne, mettre le feu à un paquebot de cette taille, mettre autant de gens en danger, bon, parfois on dit plus c'est gros, plus ça passe, mais enfin là c'est quand même assez énorme.
Oui, et puis alors il y a eu quelque chose d'assez troublant qui est arrivé, c'est que Albert Londres s'était lié avec un couple à qui il avait raconté son reportage, peut-être confié des documents, là on est encore dans les hypothèses, et ce couple a été rapatrié en France par avion à la demande du Figaro qui avait affrété un avion pour eux pensant avoir avec eux des témoins privilégiés de ce qui était arrivé à Albert Londres et l'avion s'est écrasé. Il y a eu ce qu'on appelle un suraccident, ce qui évidemment a alimenté l'idée d'un complot et le Figaro donc a même parlé de complot bolchévique pour expliquer un peu hâtivement la conjonction tragique d'un paquebot qui sombre et d'un avion qui s'écrase et les témoins entourant Albert Londres et ce fameux reportage explosif disparaissent mystérieusement.
C'était il y a 80 ans, il y a prescription, mais Étienne de Montetti, est-ce que vous soutenez cette thèse de vos collègues
de l'époque? Non, parce qu'il n'y a pas d'éléments probants. Ouais. Mais quelqu'un qui meurt comme ça de manière inexpliquée, on ne retrouve pas le corps, ça suscite toujours l'interrogation. Et Albert Londres, qui savait mettre en scène ses propres reportages, etc., en disant qu'il ramenait de la dynamique, évidemment, a alimenté l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose qui gênait des grands intérêts économiques, financiers ou politiques.
En tout cas, pour redécouvrir l'œuvre, une partie de ces grands reportages, il y a votre ouvrage, Albert Londres, grand reportage à l'étranger, aux éditions Artaud. Celui qui a votre préférence, selon votre sensibilité, Étienne de Montetti, parmi tous ces grands reportages, lequel vous a le plus touché?
C'est certainement ces reportages au Congo, cette découverte des conditions de travail, parce que ce sont des reportages très vivants, très très colorés, et puis il met vraiment le doigt sur un scandale qui est les conditions de travail de la voie ferrée. Mais par exemple, on n'a pas parlé de Pêcheurs de perles, dans lequel il découvre le wahhabisme, il rencontre Ibn Saoud, il y a une scène inouïe où il rencontre le fondateur de l'Arabie Saoudite, et il découvre aussi cette société archaïque autour du wahhabisme dont on sait encore aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite ce qu'il en est et il découvre une société dont on n'a absolument pas idée à l'époque. C'est passionnant.
Merci Étienne de Montetti, c'est passionnant. Albert Londres, grand reportage à l'étranger, c'est aux éditions Artaud. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On se quitte en musique avec Jacques Higelin. Cayenne, c'est bien fini.
Les matons m'ont maté. J'ai plus de quoi me relever. Cayenne, bon, 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 bon. Cayenne, bon, 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 bon. J'ai compris. Cayenne. Fini, Cayenne. Puis le temps que j'attends ma remise de peine,
de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini.
Allez les mecs, au boulot.
C'était Jacques Higelin qui chantait « Cayenne, c'est bien fini ». Le temps d'un bivouac replie sa tente puisque c'est bien fini. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du temps d'un bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.